Mais parce qu'en fait, il m'a envoyé le message que c'était l'heure du zoom à 58. Moi, je me suis dit, je suis large, j'ai encore 2 minutes. Et non, parce que j'ai envoyé un message, un deuxième petit cours, comme tous les matins, mais cette fois pour dire que demain, c'est un jour important, demain. Demain, c'est le jour du 7 qui se lève. Comme ça, tu ne seras pas obligé d'écouter le cours, puisque je te le fais en direct live. Le 7 qui se lève demain. Et le 7 qui se lève, comme tu le sais, c'est un jour de joie. Pourquoi c'est un jour de joie, le 7 qui se lève? C'est un jour de joie qu'on a arrêté de fêter depuis 2000 ans, et pourtant, c'est un jour de joie qui est marqué dans Megillat Taanit, ce recueil de jours de fête qu'on a rajouté à l'époque du Second Temple. J'ai parlé la semaine dernière, jeudi, du 3 qui se lève. Eh ben, il y a une autre journée qui est particulière, c'est le 7 qui se lève, puisque c'est le jour de la mort de Hérode. Et le jour de la mort de Hérode, les Juifs en ont fait un jour de joie. Parce que Hérode, c'était un pourri. Et même s'il a construit des belles choses, et au niveau architectural, eh ben, on lui doit beaucoup, au niveau moral et au niveau de la vie, c'était quand même un pourri. Il a quand même décidé de massacrer un petit peu toute sa famille. Il a massacré la moitié de Sanhédrin. Il a, ben voilà, en termes de mec pas bien, on se pose là. Et lorsqu'il meurt, eh bien, on décrète un jour de joie. Parce que lorsque on réussit à voir la défaite du mal, lorsqu'on détruit le mal, eh bien, on est content. Et il n'y a absolument aucune raison d'aimer, d'avoir des regrets, des sentiments de remords, parce que le mal, ah ben vous comprenez quand même, c'est une créature divine. Le mal, c'est le mal. Et une fois il a décidé de faire le mal, parce qu'il a le libre arbitre, il peut décider de faire teshuva. Mais à partir du moment où il fait le mal, eh bien, sa défaite, sa mort, sa destruction est pour nous signe de justice, de bien et de joie. Et donc, enfin, vous avez certainement vu les classiques de Disney où on voit que le gentil, le héros, ne tue jamais le méchant. À chaque fois, le méchant soit est tué par quelqu'un d'autre, soit s'auto-détruit, mais il faudrait pas que le gentil se salisse les mains, comme dans La Belle et la Bête, où le méchant finit par glisser du haut du toit du château et meurt. Ou alors, lorsque Simba réussit à repousser Scar, il ne le tue pas, ce sont les hyènes qui vont le tuer. Parce qu'il faudrait pas que le héros gentil avec des gants blancs se salisse les mains. Eh bien non, ce n'est pas du tout juif. Ce n'est pas se salir les mains que de faire la justice. Donc, lorsque le mal disparaît, nous, on est contents. Donc, je n'ai aucun doute que lorsque nous terminerons notre guerre et que l'éclat de la vérité et le nom d'Akadosh Baruch Hu retentira dans le monde, eh bien, on décrétera une nouvelle fête extraordinaire. Moi, j'ai un petit penchant, je vous avoue. J'ai un petit penchant pour que on termine la guerre à Tu Bishvat. Et là, on termine la guerre à Tu Bishvat, on gagne la guerre à Tu Bishvat, et Tu Bishvat devient officiellement la plus belle fête de l'univers. Bon, ça c'est bon, j'ai pas de problème qu'on finisse la guerre avant et qu'on gagne avant. Mais après, hein?
Hanouka, pas probable.
Non, mais Hanouka, il y a déjà un truc. Donc moi, je propose qu'en fait, la guerre on termine rapidement et qu'après les rabbins ils débattent et finalement ils tombent d'accord à Tu Bishvat.
Peut-être.
D'ailleurs, moi je propose. Tov, rabotaï, 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 on va sortir un tout petit peu de la guerre et des levaïot, de nos héros, de nos tzadikim. Ah là là, ah là là, ça fait mal au cœur, mais en même temps, on est tellement, enfin moi je suis tellement renforcé de voir c'est très ambivalent, hein, mais à chaque fois que je vois les photos de nos soldats qui tombent, on voit Ziv Apanim, on voit Or Panim, Or Panim. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça parce qu'ils sont tombés. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça, ou peut-être que Bémet, nos soldats, ils ont quelque chose, et moi j'y crois vraiment. Donc c'est terriblement triste, mais en même temps, c'est réconfortant de savoir que ceux que Akadosh Baruch Hu a envoyés pour nous protéger, ce sont des gens extraordinaires où leur neshama s'exprime. Même dans leur visage de manière évidente. En tout cas, on va sortir un tout petit peu de ce qui nous arrive pour prendre un petit peu de recul, de hauteur, et on va se replonger dans le passé. Alors, pas si loin dans le passé, parce que on avance quand même vachement bien, et je commence personnellement à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année? Parce qu'on va terminer avant la fin de l'année, mais ça sera un autre problème. On est arrivé quand même, on a dit, à la deuxième moitié du 19e siècle. Et si la semaine dernière, on a parlé de Rabbanim, qui partait dans toute la cachette, on a parlé de Rabbanim nord-africains, on a parlé de Rabbanim des Polonais, on a parlé de tout. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur un seul bonhomme. Et en vrai, les trois prochaines semaines, aujourd'hui, la semaine prochaine, la semaine d'après, enfin, je ne sais pas s'il y aura un cours prévu pour Hanouka, spécial Hanouka, on verra. Mais en tout cas, les trois prochains cours sur notre histoire de la Kabbalah vont se concentrer à chaque fois sur un seul personnage. Oui, car la deuxième moitié du 19e siècle a fait éclore trois personnages absolument incroyables. Il y en a qui sont plus connus que d'autres. Par exemple, lorsqu'on va parler de Chacham Yosef Chaim à Ben Ishraï, évidemment, il est très très connu dans l'enseignement de la Kabbalah et Bichlal. Lorsqu'on va parler de... C'est-à-dire le Ben Ishraï sera pour les Irakiens. Lorsqu'on va parler de l'Ashkenaz polonais et qu'on parlera du Rav Shmuel Mohaliver, lui aussi il est connu. Mais le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui, je ne sais pas s'il est tellement connu. Et à vous dire vrai, sa biographie, enfin, si je devais résumer ses événements dans sa vie, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vie agitée. Et pourtant, il est, dans sa transmission, dans ce qu'il a laissé dans la Torah, ben, il faudra beaucoup plus qu'une heure pour essayer de comprendre de qui il s'agit. On parle d'un homme qui est, ben, d'abord, on va le dire, qui connaissait tout. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça de manière... tous les grands rabbins dont on parle, on dit qu'ils connaissaient tous, et des Iluim. Non. Bien sûr qu'ils connaissaient toute la Torah, mais là, en l'occurrence, ben, y a plein d'autres rabbins que j'ai dit moi-même dans ces cours, ils connaissaient toute la Torah. Non, ils connaissaient 20 langues. Ils faisaient... Oui, madame, plus que toi, Félicia, oui, madame. Il connaissait par cœur la critique biblique. Il était un spécialiste de toutes les religions. Cours de fin d'année, idées, histoire des idées de Kabbalah, exemple, pays, mouvement, controverse. Pourquoi pas, une idée. Bekitsour, il connaissait toutes les religions. Il était un académicien et il étudier et enseigner selon les règles du Merkar, selon les règles de l'étude académique. Et ça ne le dérangeait pas du tout de mélanger tout pour qu'on puisse comprendre la Torah. C'était quelqu'un qui a commencé à écrire très très jeune, puisque son premier écrit des commentaires du Zohar, excusez du peu, il l'écrit à 16 ans et il ne va avoir de cesse que d'écrire. Il ne va avoir de cesse que d'écrire et il y a un domaine dans lequel je n'ai pas évoqué, mais il est, il est un spécialiste de tout ce qui peut être la philosophie. Il va précéder tous les philosophes du 19e siècle, tout ce que vont être dit par les philosophes de la fin du 19e siècle, il les aura précédés de 50 ans, et tout ce que les philosophes d'avant ont dit, il les a soit contredit, soit expliqué mieux. Il aura inventé l'idée de la déconstruction bien avant Derrida. Il parlera de l'existentialisme bien mieux que Kierkegaard. Il aura les idées d'Heidegger sans avoir le nazisme d'Heidegger. Il sera un spécialiste de Kant et de Hegel pour dire que finalement, c'est ni l'un ni l'autre qui a raison et il va réussir à les mettre d'accord pour être pas d'accord avec eux. Je parle d'un homme qui, comme tous les grands bonhommes qui se respectent, a été, enfin, pas lui, mais bah, tu crois quoi ? Dan, tu crois que je vais pas donner son nom? Ben voilà, ben non, ben je donnerai pas. Ben voilà. T'as qu'à trouver tout seul. Voilà. C'est un homme qui, comme tous les grands, a été, pas lui évidemment, mais ses livres, et un de ses livres en particulier, va être brûlé par une communauté entière et va être mis en cherem par une autre. C'est la preuve que c'est un grand. Il est habillé en costume, avec un petit nœud pape, une barbe, mais bien taillée, bien comme il faut. Enfin, je ne sais pas si elle est taillée ou si c'est attaché, j'en sais rien. Alors, on pourrait faire Julien Lepers, on pourrait faire question pour un champion. Je suis. Eh oui, évidemment, Zacharie, il a raison. On va parler aujourd'hui de Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Zambotai, qui est Rabbi Eliyahu ben Amozeg? D'abord, qu'on comprenne deux petites secondes. La phrase que je vais dire maintenant est une phrase très simple. Il est séfarade. Qu'est-ce que ça veut dire, il est séfarade? Il n'est pas irakien, il est séfarade. Et je paraphrase ici le Rav Eliyahu Zini de Haïfa qui dit « Il est le dernier Chacham Sepharadi. » Mais c'est le dernier Chacham Sepharadi. Un jour, le Rav Cherki il a dit « Rav Eliyahu Zini a dit que le Rav Ben Amozeg est le dernier Chacham Sepharadi. » Mais pourtant, il y a moi. Il n'est pas le dernier Chacham Sepharadi, moi je suis là, dit le Rav Cherki. Il dit, mais il y a Manitou aussi. Mais quand on dit que Rabbi Eliyahu ben Amozeg est le dernier Chacham Sepharadi, il n'est pas le dernier, mais en tout cas, il rassemble tout le Bet Hamidrash de Chachmé Sepharad. Et Chachmé Sepharad, je ne parle pas de Chachmé Bagdad. D'accord? Je pense que dans notre étude, les choses sont clairement établies. Vous avez bien compris qu'il n'y a rien à voir au niveau des Minagi, au niveau de la Halakha, au niveau de l'étude entre Edot HaMizrach et Asfaradim. C'est clair, là. C'est pas parce que le Rav Ovadia Yosef était un géant et qu'il a réussi à ramener le Kavod au Sfaradim de manière générale. Enfin, non. Il a ramené le kavod au non-ashkénaz de manière générale et il a dit « tout le monde doit m'écouter ben, ». C'est pas pour ça que Béhémet, tout le monde est irakien. Les Chachamim Sfaradim ont une autre massoret, ont une autre façon d'étudier la Torah. Et c'est bécédère. Et c'est pour ça que j'ouvre une petite, toute petite parenthèse, mais lorsque le Rav Ovadia, en tant que grand rabbin d'Israël, va voyager jusqu'au Maroc pour aller demander à Rabbi Shalom Messas d'arrêter d'être le grand rabbin du Maroc et de devenir le grand rabbin de Jérusalem, il pensait s'en faire une aide, entre guillemets, contre le Rav Goren. Parce qu'il s'est dit, le Rav Goren est trop fort et j'ai besoin d'un aide séparade. Et le problème, c'est que Rabbi Shalom, quand il va arriver, il va être en désaccord pratiquement tout le temps avec le Rav Ovadia, en disant « Mais toi, ce que tu dis, ce n'est pas le minhag des Marocains, ce n'est pas le minhag des Sfaradim. » Chachmé Sfarad, c'est les Chachamim d'Espagne. Et qu'est-ce qui particularise les Chachamim d'Espagne? Eh bien, c'est qu'ils n'ont peur de rien. C'est qu'ils vont étudier tout. Et en aucun cas, ils vont avoir peur que tel ou tel sujet risque de les faire tomber, risque de leur enlever leur émouna. Et ça, les amis, que ce soit dans le monde bagdadien, irakien, ou alors que ce soit dans le monde ashkénaze, on a peur comme de la peste des choses qui sont michoutz le bet hamidrash. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. D'accord ? En Europe, on connaît les circonstances atténuantes de l'émancipation, mais il n'empêche que depuis l'époque où les Juifs, depuis l'âge d'or des Juifs d'Espagne, jusqu'à Rabbi Eliyahu ben Amozeg, eh bien, les Chachamim Sfaradim n'ont absolument pas peur de se confronter avec tous les écrits. Ok ? Donc Rabbi Eliezer ben Amozeg grandit dans cet univers-là, mais il est d'abord et avant tout le fils du monde séfarade. C'est-à-dire que bien que Rabbi Eliezer ben Amozeg va naître à Livourne, en Italie, eh bien, il va quand même être le fils de Rabbi Avraham ben Shem Tov, qui lui est un enfant de Fès. Et il est également le fils de Carla, qui est la fille de Rabbi Avraham Raphaël Koryat, qui était le Dayan de Mogador. Donc vous comprenez qu'il est tout de suite dans une ambiance nord-africaine évidente. Il va être éduqué, pas par ses parents, parce que son père le met au monde lorsqu'il a déjà 71 ans. Et ça aussi, c'est toute une histoire, parce qu'il était marié depuis 50 ans avec une femme. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Il a demandé la permission à sa première femme d'avoir une autre femme pour lui amener un enfant. Et finalement, il aura un fils à l'âge de 71 ans. Mais il décédera très rapidement, et sa mère également. Il sera donc élevé par son oncle Rav Yehuda Koryat, qui était à Dayan Agadol, là-bas, à Livourne. Donc, si vous voulez, il fait partie d'un Beit HaMidrash, il grandit auprès de Talmidei Chachamim, mais il grandit en Italie. Et ça, ça a son importance. On n'a pas beaucoup parlé des Chachmei Italia, mais il faudrait se rappeler quand même que d'abord, au niveau du judaïsme, la Keïla des Juifs d'Italie, et particulièrement des Juifs de Rome, est une Keïla à part. Keilat Bene Roma, c'est une communauté qui n'est pas Sfarad, qui n'est pas Ashkenaz, qui est Keilat Bene Roma. Ils ont des minagim qui sont à eux, ils ont des airs qui ne ressemblent à personne, c'est autre chose. Et donc, lorsque tu vis à Livorno, eh bien, tu es empreint de cette ambiance-là, un, de la communauté de Bnei Roma. Deux, je m'appelle Rabbi Léo Ben Amozeg, je suis empli de culture séfarade d'Espagne, mais également d'Afrique du Nord. Je suis un mix, et je suis aussi, le quatrième point, je suis aussi au centre, eh bien, de l'Europe, de l'occidentalisation. Je m'habille en costume de pape, je parle toutes les langues dans lesquelles les Européens écrivent. Je suis complètement imprégné de culture occidentale. Et Rabbi Eliezer ben Amozeg a cette force-là de réussir à réunir tout cela sans jamais porter atteinte à sa émouna. Et c'est peut-être ça la chose la plus extraordinaire. Il est tout de suite reconnu par ses pairs comme étant une personnalité très particulière, à tel point que Rabbi Chaim Palachi, que nous avons déjà évoqué, Rabbi Chaim Palachi qui meurt, il a le temps de le connaître, mais il va mourir, Rabbi Eliezer ben Amozeg sera à peine âgé d'une quarantaine d'années, mais il a le temps de dire quand même « Yesh lanu harav ha'atzum ve'agadol bechochma » Ve'akadosh be'emuna, Rav Eliezer ben Amozeg. Alors, de quoi on est en train de parler? Rav Eliezer ben Amozeg va avoir des lettres de correspondance avec le Ben Ishraï, avec tous les Chachamim ve'etzem de son époque. Mais alors, quelle est sa particularité? Eh bien, la particularité de Rav Eliezer ben Amozeg sera dans ses livres. La grandeur du bonhomme, on la retrouve dans ses livres. Et il y a plusieurs livres qui sont fondamentaux. La majorité de ses livres, il les écrit en français. Pourquoi il les écrit en français? Eh bien parce que, au XIXe siècle, la langue de l'intellectuel, la langue du scientifique, c'est le français. Le français du 19e siècle, c'est l'anglais du 20e siècle et c'est l'arabe du 11e siècle. Rappelez-vous que Rabbi Houda Halevi écrit son Kuzari en arabe, que le Rambam écrit son Moreh Nevuchim en arabe. C'est pas parce que ça a été traduit en hébreu. À la base, on écrit dans la langue où les gens élevés pourront la comprendre. Ça va être traduit en hébreu, les livres du Rav Ben Amozeg, mais lui, il n'écrit pas forcément en hébreu. Il va écrire en français, en italien, un petit peu en hébreu, mais particulièrement en français. Et l'un des premiers livres qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le livre « Morale juive et morale chrétienne ». Morale juive et morale chrétienne que le Rav Zini va traduire en hébreu et il va appeler le livre Bishvilei Amoussar, Moussar Yehudi Leumat Moussar Notzri. Dans le livre, en fait, c'est pour ça que le Rav Zini le traduit Bishvilei Amoussar, parce que il ne va pas que parler de morale juive et morale chrétienne. Il parle aussi de l'islam, il parle aussi du bouddhisme, mais dans la Mahadura, dans l'édition qui est sortie en France, la récente, on a enlevé la partie sur l'islam, comme s'il ne s'occupait que de morale chrétienne. Ce n'est pas le cas. Dans les Kit Veyad, il parle aussi de l'islam, il parle aussi du bouddhisme. Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ce livre-là de Moussar, Yehudi Leumat Moussar Notri, Beshvilei Amoussar, eh bien, le Rav Ben Amozeg vient expliquer ce que expliquera plus tard le Rav Kook dans le livre Moussar Kodesh, dans le sens où il revient sur Emmanuel Kant, il parle d'une définition de la morale qui est indépendante de chaque société humaine, qui est pour le bien commun de la société, tout ok. Mais nous dit le Rav Ben Amozeg que seule une morale qui est rattachée au Kodesh peut être une véritable morale. Pourquoi ? Nous dit le Rav Eliyahu Ben Amozeg, lorsque tu prends la morale comme étant la mise en avant de Midat HaChesed, comme ont pu le faire les chrétiens, ou alors comme étant la mise en avant de Midat HaDin, comme ont pu le faire les musulmans, ou alors comme étant la mise en avant de Midat HaTiferet, comme ont pu le faire les bouddhismes, eh bien, tu ne prends qu'une mida parmi les midot. Et donc, cette morale que tu prônes est fondamentalement manquante. Et donc, elle deviendra arsarite. Elle deviendra barbare, violente. Elle deviendra immorale. Parce que lorsque tu as poussé le chesed à outrance, eh bien, tu en viens à dire « aimez vos ennemis ». Lorsque tu as poussé le din à outrance, eh bien, tu viens dire que finalement, la loi est la même pour toutes, que tu aies volé une pomme ou que tu aies tué quelqu'un, pareil. Et lorsque tu vas mettre le tiferet à outrance, eh bien, finalement, la vie n'a pas d'importance, seul l'éclat, la résonance de ce qui reste est important. Et donc, il va donner une bicorette très forte parce que finalement, seul Moussar HaKodesh permet une vérité. C'est-à-dire que je suis Moussari pas parce que c'est bien, mais parce que Dieu m'a demandé. Et c'est ce que dira Avraham Avinu, ce que nous dit le Rav Eliyahu Ben Amozeg, ce que Avraham Avinu dira à Avimelech. La reine Avimelech, lorsqu'il prend Sarah, il dit à Avraham, mais enfin, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? Enfin, j'ai failli fauter à cause de toi. Et dit Avraham, qui a marti, Rak en irat Elohim bamakom azé. Vaharaguni al devarishti. Vous n'êtes pas rattaché à celui qui a dit qu'il faut être moussari. Donc, si à un moment donné, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, eh bien, tu trouveras une raison morale pour me tuer. comme les nazis, qui exprimaient clairement le fait de faire le bien en tuant le peuple juif, puisque le peuple juif est le cancer de l'humanité. Il faut bien se débarrasser du peuple juif, ça va faire du bien à tout le monde. Moussar, nous dit Rabbi Eliyahu ben Amozeg, Hamoussar, ze kodem kol, dvar Hashem. Alors il y a, au-delà il y a évidemment d'autres bouquins, et parmi les autres livres, il y en a un qui est fondamental, j'ai envie de dire, pour étudier la Torah, qui s'appelle Mavo le Torah Shebealpe. Mavo le Torah Shebealpe. Bon, c'est facile, pas de problème. Mazé, Mavo le Torah Shebealpe. Les amis, ce que je vais dire maintenant, vous l'avez certainement déjà entendu dans ma bouche, dans la bouche de Rav Cherki, dans la bouche de Manitou, le Makor, Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Et ceux qui n'ont pas compris ça n'ont rien compris à l'étude de la Torah. Ah, je préfère le dire, hein, clairement. Attention, tenez-vous bien, roulement de tambour. La Torah orale n'est pas l'explication de la Torah écrite. Zéro. La Torah écrite est une partie de la Torah orale. On est d'accord? La Torah écrite, c'est-à-dire le Pentateuch, elle a été d'abord par oral. Dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Donc d'abord, Dieu il a parlé à Moshe. Daber el Bene Israël va amarta alem va soulem tzitzit. Donc d'abord, c'est Daber. Et il se trouve qu'une partie de la Torah orale a été mise par écrit. OK ? Mais la Torah orale n'est pas l'explication de l'écrite. Elle l'a précédée, comme dit Zacharie exactement. Elle l'a précédée. En d'autres termes, quand tu viens me dire que le Torah Shebealpe, c'est le pérouche, la Mishnah, la Gemara, c'est le pérouche de la Torah, c'est taout. Puisque la Torah est là pour nous expliquer qui nous sommes, la Torah orale est là pour nous expliquer comment nous sommes. Tu veux savoir qui est juif? Regarde dans la Torah écrite. Tu veux savoir qu'est-ce qui fait un juif? Regarde dans la Torah orale. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire qu'il y a une Elyonout de la Torah Shebealpe al Gabe à Torah Shebichtav. Ok, ça c'est fondamental, les amis. Si on n'a pas compris ça, c'est pas la peine de commencer à étudier quoi que ce soit. C'est clair? Très bien. Alors, Moussar Yehudi Leumat Moussar Notri. Torah, Mavol Torah Shebealpe. Il écrit également un livre qui s'appelle Avoda Shebalev. Avoda Shebalev, c'est son commentaire de la Tfila. Son commentaire de la Tfila, et dans la première page de Avoda Shebalev, nous dit, alors rien à voir avec les Sidourim Avoda Shebalev aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a plein de Sidourim qui sont l'édition Avoda Shebalev. C'est pas rien à voir avec, c'est pas le livre, c'est pas le commentaire de Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Pour lui, dans la première page du livre, nous dit la Tefila est le dernier vestige de la névoie. On dit des choses qui sont d'une évidence et banale pour nous, parce qu'on l'a déjà étudié plein de fois, mais maintenant, vous savez d'où ça vient. C'est-à-dire, la Tefila est le vestige de la névoie. Donc, lorsque je prie, je me rattache à cette force-là chez moi, qui est capable de prophétiser. Je ne suis pas prophète. Ce n'est pas parce que je prie que je deviens prophète. Mais je me rattache à cette partie en moi qui est susceptible, de devenir prophète. Donc la névoie est une expérience du domaine de la transcendance, et moi, j'essaye de me rattacher à cela. Alors, on parle de la Torah, on parle de la Tfila, on parle du Moussar. Bon, tout ça, c'est bien. Mais que faire de son masterpiece? Son masterpiece, les copains. Et là, il va falloir qu'on s'arrête deux secondes. Ah, est-ce que Avodah Shebalev, c'est écrit en hébreu? C'est écrit en italien. Italiano. Parce que ça fait plus... Tu parles avec les mains. Et comme tu fais la tefila, tu fais aussi la tefila avec les mains. Alors, non, ça, je sais pas. Ça, c'est moi qui ai dit. Quelle est sa masterpiece? Alors là, attention, la masterpiece, elle arrive. La masterpiece, c'est elle qui a été brûlée par Chachmé Chalab. Les Chachamim de Chalab, en Syrie, ont reçu ce bouquin, ils ont dit, il faut brûler ce livre. Le Rav Eliyahu Zini, qui a décidé de le traduire, de le mettre en hébreu comme il faut, machin, il a dit, si j'avais été moi aussi à Chalab à ce moment-là, j'aurais peut-être pas brûlé le livre, mais je l'aurais certainement enterré. Alors que c'est lui qui sort le livre de nouveau et qui le rend accessible à tous. Il dit parce qu'il faut comprendre que Chachmé Chalab, c'est pas des Européens. Ils n'ont pas les connaissances et les confrontations qu'ont les Juifs en Europe. Et donc ils disent forcément que les mecs comme ça, agave, pas que Chachmé Chalab, Chachmé Yerushalayim, qui vont le mettre en Kherem aussi, ils peuvent pas gérer ce qu'il écrit. Sa masterpiece s'appelle M la Mikra. M la Mikra. La maman de la Mikra. Et dans ce livre-là, c'est son commentaire de la Torah. Il est fantastique. Mais il est écrit à la mode de l'académie. Il est écrit avec des merkarim de partout. Il utilise la philologie, il utilise l'archéologie, il utilise tous les domaines de l'université et il utilise un autre truc. Tenez-vous bien. Comment vous auriez réagi, vous, si on vous donne un livre de Torah et que, à deux lignes d'écart, tu dis « Et c'est marqué ainsi dans les paroles de Moshe Rabbeinu » deux points, et tu cites un verset, et juste en dessous, tu marques, et ça fait écho à ce que dit Jésus dans les évangiles, ta 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 ta, et trois lignes plus tard, il va te dire, et ainsi parlait Zarathoustra, ta 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 ta, dans M. la Mikra, il n'a aucun problème pour expliquer la Torah, d'aller se servir de ce qui a marqué dans le Coran, dans la Bible évangélique, dans les évangiles, dans les sciences de l'Orient, dans la Bikoret Amikra, dans la critique biblique. Il n'y a pas de problème. Il y va. Et même si à la fin, c'est pour expliquer la Torah, tu peux comprendre que les Chachamim qui n'ont pas jamais vu ça, ils disent, non mais, oh, c'est quoi ce monsieur? Il n'est pas de chez nous. Il va être mis en accusation par les rabbins de Jérusalem et il va devoir s'expliquer, Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Et devant les rabbins de Jérusalem, il dit, mais je ne comprends pas ce qui vous arrive. J'ai rien dit. Mes conclusions sont les mêmes que les vôtres. Mais est-il étudié, enseigné de nos jours? Pas assez. Bien sûr que pas assez. Alors les amis, moi je veux bien. On a parlé de Moussar, on a parlé de Torah orale, Torah écrite, on a parlé de Tfila, on a parlé de Mikra, mais on est quand même dans un cours sur l'histoire de la Kabbalah. Est-ce que Rabbi Eliyahu ben Amozeg est un Mekoubal? Veoder Gdol HaMekoubalim. Vous n'avez pas compris. Rabbi Eliyahu ben Amozeg, il est d'abord rabbin de communauté, Dayan de Livourne. Je veux dire, il s'est pas caché derrière ses bouquins. Il était complètement actif. Il a été 50 ans le rabbin de la communauté de Livourne. 50 ans. C'est très rare qu'il y ait un rabbin qui reste aussi longtemps le rabbin de la communauté. Bon, d'abord, ça veut dire qu'il a été nommé rabbin de la communauté à 18 ans. C'est-à-dire, mais 50 ans, il reste le rabbin. Donc, c'est un mec qui est complètement dans l'action. Et en plus de ça, il n'arrête pas d'écrire. Les amis, il écrit au niveau de la Kabbalah, il va écrire plusieurs choses. Comme j'ai dit, la première chose qu'il écrit, c'est des annotations sur le Sefer HaZohar, mais il va écrire également un livre qui s'appelle Emat Mifgia al-Ari. Emat Mifgia al-Ari. Il vient expliquer la Kabbalah du Hari. Il vient expliquer la Kabbalah du Hari et il fait une réponse à un monsieur qui s'appelle Rabbi Yehuda Ariyeh Mimonda, qui va écrire un livre contre la Kabbalah qui s'appelle Ari Noem. Et donc, dans le livre Emad Mifgia al-Ari, il vient expliquer pourquoi est-ce que lui a tort et quelle est la véracité de la Kabbalah du Harizal. Mais il écrit un autre livre qui va être beaucoup plus connu, qui est son livre central au niveau de la Kabbalah, qui s'appelle Ta'am Leshad. Ta'am Leshad, c'est aussi une réponse. C'est une réponse d'un monsieur qui s'appelle Shmuel David Lutzato. Alors, pas le Ramchal, évidemment, mais Shmuel David Lutzato. Shadal. Ok ? Shadal, Shmuel David Lutzato. Le livre Ta'am Leshad, c'est Ta'am Leshmuel David. D'accord ? Donc, c'est une réponse à Shmuel David Lutzato. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, Ta'am le Shmuel David Lutzato ? Lui, il va dire que la Kabbalah, c'est quelque chose de très récent, que le Zohar, il date du 13e siècle, qu'il n'y a pas de véritable base d'une Kabbalah qui viendrait de l'époque de Moshe Rabbeinu. Et donc, dans le livre Ta'am Leshad, Rabbi Eliyahu ben Amozek va expliquer Kadmut HaKabbalah. Kadmut HaKabbalah, Kadmut Sefer HaZohar, la véracité du Sefer HaZohar. C'est tout ça qu'on va retrouver dans le livre Ta'am Leshad. Et puis finalement, il écrit un dernier livre. Il écrit un dernier livre, les amis, en français. Et ce livre-là, il l'écrit pour quelqu'un. Pas en réponse à quelqu'un, mais pour quelqu'un. Pour un homme qui s'est énormément rapproché de lui, qui est devenu son élève. C'est pas clair du tout de savoir s'il s'est converti à la fin ou pas au judaïsme. Le Rav Zini dit que oui, le Rav Cherki dit que non. Cet homme s'appelait Aimé Palière. Et pour cet Aimé Palière, le Rav Eliyahu ben Amozeg écrit son livre le plus important qui s'appelle Israël et l'humanité. Que le Rav Zini a traduit par Israël ve'enoshut. Il dit c'est une erreur de dire Israël ve'ha'enoshut. C'est pas le peuple juif face à l'humanité. C'est l'humanité qu'il y a au sein du peuple juif. C'est-à-dire la notion universelle qui est portée par le judaïsme. Israël et l'humanité. Et c'est là-bas qu'il va expliquer toute la relation universelle du judaïsme, le fait que nous ne sommes pas une religion, le fait que nous sommes une nation, le fait que nous avons un message à donner à l'humanité. Et c'est là-bas qu'il va développer aussi toute sa Torah des Bnei Noach. Le Rav Cherki, lorsqu'il met en place Brit Olam pour les Bnei Noach, eh bien, il se sert beaucoup de ce qui est marqué dans Israël et l'humanité. Donc, si je devais récapituler deux secondes, on parle d'un homme qui est Gdol Chachmei Moussar, dans son livre Moussar Yehudi, Leumat Moussar Notzri. On a un homme qui est Migdolé Amit Palelim, dans son livre qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Je me suis perdu à cause de vous. Ou à cause de moi, je ne sais pas. Le livre sur la tefila, j'ai dit qu'il s'appelait Avodah Shebalev. Avodah Shebalev, voilà. Je me suis remis dans ma tête tous les livres sfarad que je connais. Avodah Shebalev. Ok. Bekitsur, Gdol Amit Palelim, donc Gdol Amoussarim, Rachman Moussar, Gdol Amit Palelim, Gdol Apalpelanim, Mavor et Torah Shebalpe, Gdol Amikraim, Em la Mikra, Gdol Amekupalim, Tam Leshad. Et tous ensemble, dans son œuvre incroyable, Israël et l'humanité. Pour Rabbi Eliyahu ben Amozeg, Chochmat HaKabbalah est l'origine de toutes les autres Chochmot, puisqu'elle permet d'unir toutes les études. C'est une Kabbalah clalite qui va permettre de ne pas avoir peur d'aucun enseignement, parce que tout, d'après la Kabbalah, à une place. Eli ben Amozeg, oui, c'est ça. En français, on dit Eli ben Amozeg, mais Eliaou. C'est-à-dire? Donc, c'est une Kabbalah qui est une Kabbalah kolelet. C'est-à-dire une Torah ta Kabbalah qui vient unir toute la réalité. C'est-à-dire? Rabbi Eliaou ben Amozeg va mourir en 1900. Mamash. Au tout début du XXe siècle, et il est enterré à Livorno aujourd'hui. Et quelqu'un a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on étudie Rabbi Eliyahu ben Amozeg? À dire vrai, non, pas assez. Pourquoi? Eh bien parce que, et il faut le dire, dans le monde israélien, c'est un personnage qui fait peur. Parce que dans le monde israélien, quelqu'un qui est et docteur, professeur, académicien, choker, et rabbin, et talmid racham, et il n'y a pas le et. Aujourd'hui, on est une société qui est fragmentée, et même chez les religieux, qui a du mal avec le vavachibour, qui a du mal avec le et. Et Rabbi Eliyahu ben Amozeg, c'est quelqu'un qui est et. Il n'y a pas un sujet qu'il ne va pas aborder. Et il n'y a pas un sujet qu'il a peur d'aborder, si ça doit l'aider à mieux comprendre la Torah et à mieux l'expliquer, eh bien, il ira. Et je terminerai en citant. Oui, mais évidemment, dans une autre mesure, Shoshani. Mais je disais tout à l'heure, quand je parlais de Manitou, quand je parlais de Vadaï, c'est-à-dire que cette chochma-là, des chachmei sepharad, en fait, tu regardes le Ramban, il est comme ça. Alors, il n'y a pas le Merkar à l'époque du Ramban, mais je veux dire, le Ramban, il est dans toutes les chochmot de l'époque. Tu regardes Rabbi Chisdai Kreskas, tu pas. Rogatchover. Non. Non, pas à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. Malasot. C'est-à-dire que c'est une tradition qui s'est perdue. Qui s'est perdue. Et les gens ont peur de cette tradition. Et c'est une erreur. Évidemment, le Rav Cherki, il est comme ça. Mais c'est une erreur. C'est-à-dire que être capable d'être baki be'akol pour une seule matara dévoilée à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Zegdoula she'en arbe. C'est-à-dire, et Rabbi Eliyahu ben Amozeg était, à la fin du 19e siècle, eh bien, le fer de lance de cette shita, de la Torah du tout, pour pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu. Il écrira, dans son intervention qu'il donnera au Chachmei Yerushalayim pour se défendre, il dira que le Rambam écrit dans Ilchot Sanhedrin que pour pouvoir la Shevet Bas Sanhedrin, le Dayan, il est censé connaître toute la Avodot Zarot du monde. Sinon, comment il peut les juger? Et donc, il dit, bon, voilà, donc faut pas avoir peur de les étudier. C'est une évidence, mais c'est une évidence qui fait très, très peur à beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'il a été énormément décrié. Et pourtant, Rabbi Eliyahu ben Amozeg a été certainement le personnage de la fin du 19e siècle le plus atypique, mais le plus entier, le plus chalem de tous les personnages de cette époque-là, pour ne pas dire depuis très, très, très longtemps. Rabbi Eliyahu ben Amozeg, l'homme du tout, pour dévoiler le un. Ah, oh, elle est belle, cette formule! Ah, oh, j'avais même pas préparé. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Vous pouvez la noter. Les gars, vous pouvez la noter. Rabbi Eliyahu ben Amozeg, l'homme du tout, pour dévoiler le un. Vous pouvez allumer vos micros. Moi, c'est bon, j'ai fini. Je vais aller prendre un café. À vous. Vous pouvez allumer les micros.
Encore 2 minutes avant le café. Et on peut rallumer les micros pour les questions.
Moi, j'ai déjà une petite. J'ai une petite question.
Pardon. Attends, Zachary, il a dit c'est moi le chef, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais en premier.
Levez la main, comme ça on peut faire de l'ordre. Ça va être plus facile que tout le monde parle en même temps. Les textes du Rav ben Amozeg, à part Israël et l'humanité, on les trouve pas ou peu. Je sais que le Rav Zini travaille dessus sur certains.
Tu as raison complètement.
Tam Lachad et tout ça, ils sont disponibles.
Non, Tam Lachad, il existe, hein, on peut le trouver. On peut le trouver en hébreu, pas de problème.
Israël, il a été écrit en hébreu ou en français?
Pardon?
Il a été écrit en hébreu ou en français?
Tam Lachad, je...
C'est pas grave.
Bonne question. En tout cas, aujourd'hui, il existe en hébreu. Enfin, moi, je l'ai étudié avec Laura Cherki en hébreu, donc je sais qu'il existe en hébreu. Mais effectivement, M. la Mikra, tu peux le trouver aujourd'hui grâce au Rav Zini. Moussar Yehudi, Moussar Notri, tu peux aussi. Et Israël Vaïnoshot aussi. C'est les textes de base. Pour ce qui est de Mavo le Torah Shebealpé, c'est écrit en hébreu, donc ça, yesh. Mais t'as raison, il n'est pas assez étudié, il n'est pas assez connu. Dans le monde israélien, mais personne ne sait qui c'est Rabbi Eliyahu ben Amozeg.
Alors, question de...
Est-ce que le livre Israël et Haïnoshout est accessible à un jeune homme de 16 ans?
Bah, en quoi? En hébreu ou en français?
En hébreu.
Pourquoi je pose la question? Parce qu'en hébreu, il est moins difficile au niveau de la langue qu'en français. En français, c'est philosophique. Qu'il essaye. Qu'il essaye.
Merci.
Question de Dan.
Oui, juste une petite question. Bon, merci de nous avoir fait découvrir Rav Amozeg. Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il en pense? Et est-ce qu'il a été en Israël?
Alors voilà, ça c'est une très très belle question parce que je me rappelle une fois on étudiait sur lui et il y a quelqu'un qui disait tout ce que le Rav Kook va écrire un peu plus tard c'est déjà chez Rabbi Eliyahu ben Amozeg. Et le Rav Cherki répondait n'exagère pas, il y a presque tout mais il manque quand même l'essentiel du Rav Kook. C'est-à-dire que le sionisme c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors il parle d'Eretz Israël, il parle très clairement de son attachement à Israël, de l'importance d'Israël, de la centralité, de ce que tu veux. Mais on vit quand même, il est quand même un contemporain de la première Alia, il est un contemporain de ce que va faire le Rav Moïse Oliver. Et c'est vrai que ça ne ressort pas de ses écrits. Donc il est manifestement pro, mais c'est vrai que. Voilà. Il a été en Israël dans ses voyages, parce qu'il a été, il a été à Jérusalem, machin. Mais c'est vrai que il n'y a pas une chita claire sur le retour en Israël, comme on va trouver plus tard dans Rav Kook.
Comment on explique ça, puisqu'on dit que la plupart des gens qui sont passionnés, c'est un manque de Kabbalah justement.
Ah non, mais je te dis pas, il est passionniste. C'est-à-dire que il écrit que l'importance et la centralité d'Israël, mais il n'y a pas une étude chitatique, si tu veux. Sur la notion du sionisme et de la résurrection nationale. C'est une bonne question. Pourquoi il n'a pas fait un livre entier là-dessus? C'est une bonne question.
Il y avait une forte communauté à Livourne? Ça représentait
combien de personnes? Oui.
Peut-être il voulait rester avec sa communauté, non? Je ne sais pas.
Oui, non, regarde, ce que je ne sais pas, je ne vais pas spéculer sur lui, mais voilà.
Question de M. Ben Saïd.
Oui, bonjour. À vous écouter, on regrette complètement qu'il soit mort au début du XXe siècle. Parce que avec l'arrivée des savants du XXe siècle, en particulier ceux qui ont complètement bouleversé notre approche de la science et de la physique.
Ah, il aurait kiffé.
Voilà, exactement. Alors la question, c'est est-ce qu'il est. Alors je sais qu'il y a énormément de gens très, très, très ferrés dans. Qui concernent la Torah et la tradition juive, et qui sont à la fois des physiciens ou des mathématiciens, mais est-ce qu'il existe actuellement une autorité qui soit une référence dans ces domaines ? Il y a quelque chose qui m'a toujours passionné. Je ne suis pas mathématicien, j'ai quelques notions, comme beaucoup de gens, mais je ne le suis pas. Mais par exemple, il y a une théorie qui est magnifique et qui se rapproche énormément de tout ce que j'entends depuis un an. C'est la théorie des fractales, qui n'a absolument rien à voir avec la théorie fractionnelle. C'est pas du tout. J'ai souvent entendu l'histoire du puzzle dans lequel on doit s'insérer. Eh ben pas du tout. Je ne crois pas du tout au puzzle. Par contre, au fractal, oui, parce que le fractal, c'est quoi? C'est un macrocosme construit à partir d'un microcosme qui lui est identique à l'échelle près. Et j'ai entendu dire que Rav Cherki était mathématicien.
Non, le Rav Zinni est mathématicien.
Ah.
Le Rav Zinni est docteur en mathématiques.
J'ai entendu dire que le Rav Cherki avait dans la salle qui était réservée au hall énormément de bouquins de mathématiques.
Oui, c'est une chose de s'intéresser beaucoup aux mathématiques et d'être mathématicien. Donc, de ce que je sais, le Rav Cherki, il s'intéresse à tout de toute façon. Mais le Rav Eliyahu Zinni, lui, il est mathématicien de formation.
Alors, c'est un domaine particulier des mathématiques. Il y a des excellents mathématiciens qui ne connaissent pas les fractales.
Faudra lui demander à lui. Je ne sais pas. Moi, par exemple, je ne connais pas les fractales.
Est-ce que vous avez... Il y a d'autres questions? Il reste 2 minutes. Anita?
Je peux poser une question au monsieur qui parlait du fragment fractal, vous disiez. Est-ce que c'est très proche de la physique quantique?
Ah, c'est complètement. C'est aussi proche, oui, c'est aussi incompréhensible. Enfin, c'est plus accessible au cerveau, mais c'est aussi incompréhensible que la mécanique quantique, qui elle est complètement autre chose. Mais qui, par contre, ce matin, j'écoutais une conférence. Justement sur le piège que constituent les lettres. Oui. Et j'ai immédiatement pensé que nous, justement, on modifie les mots par les lettres et qu'on n'a pas le piège des lettres. Mmh. Et donc la mécanique quantique, oui, ça fait partie des choses qui perturbent parce que c'est quelque chose... Vous savez, il y a un grand spécialiste de mécanique quantique qui disait 2 choses et qui explique bien la mécanique quantique. Il disait... Si vous croyez que vous avez compris la mécanique quantique, c'est que vous n'avez rien compris. Ce qui montre bien à quel point c'est compliqué. Mais c'est ensuite,
oui, pardon.
Si vous avez des questions, alors vous pouvez sortir de la salle. C'est-à-dire que finalement, dans la mécanique quantique, on est complètement en dehors de ce qui nous est familier sur le plan intellectuel. Mais ça ouvre des perspectives, en particulier, enfin pour moi, c'est un biais, hein, pour moi c'est un biais cognitif, mais ça ouvre des perspectives sur la compréhension de tout ce que j'entends depuis un an, qui me noie d'ailleurs, parce que quelquefois j'ai eu des insomnies. Oui.
Et je vois que le Rav Cherki est arrivé, donc merci.
Merci monsieur.
Merci Rav Fizan. Merci beaucoup.